Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous allons nous intéresser à l'un des véhicules pour investir en bourse, le PEA. Nous allons nous demander ensemble combien cela rapporte d'investir en PEA. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Clémence Tanguy. Bonsoir Clémence Tanguy.
Bonsoir.
Clémence Tanguy, responsable éditoriale au sein du Café de la Bourse. Quand vous ne présentez pas l'émission Smart Bourse, le sujet qui nous anime ce soir, c'est combien rapporte d'investir en PEA. Mais alors, on ne va pas parler des choix d'investissement qu'on va réaliser, Clémence.
Non, on ne parle pas des choix d'investissement. On va se demander combien ça rapporte. Alors, combien ça rapporte d'investir en PEA, ça revient quand même un peu à se demander combien ça rapporte d'investir en bourse. Parce que via un PEA, vous pouvez acheter des actions, bien sûr, des obligations, des fonds d'investissement, des parts de fonds d'investissement, y compris des ETF, les trackers très populaires qui apprécient beaucoup les investisseurs particuliers, qui permettent de répliquer la performance d'un indice boursier. Alors après, tous les titres ne sont pas éligibles non plus. Il y a quand même des restrictions assez fortes. Donc, sont éligibles les titres de sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
D'accord.
Et dont le siège social est situé soit en France, soit dans l'Union européenne.
C'est important de le rappeler que ça n'est pas qu'en France.
Ouais. Oui, c'est aussi dans l'Union européenne. Et puis, il est quand même possible d'investir depuis un PEA sur d'autres places boursières mondiales parce que via des trackers et une réplication synthétique, par le jeu de la réplication synthétique, on va pouvoir permettre d'investir sur des indices qui reprennent les grands indices boursiers mondiaux. Donc, on va pouvoir investir sur le Nasdaq, sur le MSCI World. Voilà, il est possible d'investir via son PEA sur ce type d'indice. Alors, des indices qui rapportent combien ? Alors, le rendement annualisé du MSCI World ou de Nasdaq, c'est à peu près 10% par an. Le CAC 40, il fait un peu moins, il est à peu près à 9% par an. Mais voilà, c'est le rendement à peu près qu'on peut se fixer pour son investissement PEA. Alors après, il est possible toujours de faire du stock picking, mais alors ça nécessite plus de temps, plus de compétences, plus de risques, c'est moins fiable. Si vous avez acheté LVMH il y a 10 ans, c'est bien, ça fait 414%
bien sûr,
progression. Ouais. Si vous avez acheté Atos il y a 10 ans, ça fait moins 97%, donc voilà, il faut l'avoir en tête.
Donc indice ou action via du stock picking. Ce qu'on envisage moins, ce qu'on anticipe moins quand on fait des investissements en bourse ou via un PEA, c'est que on est taxé et il y a une taxation à prendre en compte quand on investit en bourse.
Alors quand on investit en bourse, on est taxé. Alors c'est à la flat tax le plus souvent quand on fait l'action au porteur, si on est en nominatif ou si on investit depuis un compte titre, ça va être la flat tax à 30%. Alors il est toujours possible d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu plus 10 et 2 de prélèvements sociaux si c'est plus avantageux pour vous. Mais généralement, c'est 30%. Alors, avec le PEA, et c'est là l'avantage majeur du PEA, c'est qu'au bout de 5 ans de détention du plan, il n'y a plus d'impôt sur les plus-values.
D'accord.
Ni zéro. Et vous n'avez plus que 17,2% de prélèvements sociaux à payer. Donc, concrètement, les gains que vous allez réaliser sur un PEA sont taxés à 17,2%. Et c'est tout. Ce qui fait que finalement, le PEA, toutes choses égales par ailleurs, va rapporter beaucoup plus que le compte-titre.
Vous êtes forte en calcul mental, Clémence ?
Moyennement.
On va quand même essayer. Si vous aviez un exemple de rendement à nous donner sur un PEA, passé 5 ans, du coup.
Voilà. Alors, je suis née avec ma petite fiche. Alors, passé 5 ans, si on prend, par exemple, un ETF sur le Nasdaq, on dit qu'il fait 10% de rendement annualisé. On a mis 10 000 euros et on le garde pendant 5 ans. Alors, qu'est-ce que ça va faire ? Le gain avant impôt, ça nous fait 6 105 euros. L'impôt sur la plus-value, zéro.
D'accord.
Les prélèvements sociaux, on est à 1050,06 €. Le gain après impôt, on est à peu près 5 055 €. Pour le PEA, parce que le gain après impôt, si c'était un compte-titre, on serait à 4 273,50 €. Donc en fait, au bout de ces 5 ans, la somme disponible sur votre PEA, ça va être 15 055 €. Sur votre compte-titre, ça serait 14 237,50 €. Donc on voit bien que c'est quand même beaucoup plus avantageux. Alors il faut évidemment choisir des titres qui sont éligibles au PEA, mais d'investir depuis un PEA que depuis un compte-titre fiscalement. Alors après, c'est quand même... Là, j'ai pris l'exemple avec un rendement annualisé de 10 ans en me disant que le Nasdaq, c'est à peu près ça. Mais dans les faits, ça ne se passera jamais comme ça. Il y a des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Des
bien
années,
sûr,
ça rapportera
oui.
beaucoup plus. Des années, ça rapportera beaucoup moins. Donc il y aura une incidence sur les rendements capitalisés dont il faut prendre compte là.
Bien sûr.
Mais voilà, c'est pour expliquer quand même, à titre pédagogique, que c'est quand même beaucoup plus intéressant fiscalement d'opter pour le PEA.
Est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte au-delà de la fiscalité pour évaluer au plus près le rendement de son PEA?
Bah bien sûr, parce qu'il va aussi falloir prendre en compte les frais. Les frais,
bien sûr, ouais, c'est pas gratuit d'investir sur des actions.
C'est pas gratuit d'investir sur des actions. Alors, pour ça, il va falloir prendre en compte les frais de courtage. Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va d'abord dépendre de votre courtier. Alors, les acteurs en ligne sont souvent beaucoup moins chers que les acteurs traditionnels. Il y en a même parfois qui proposent des plans de versement programmés gratuits, etc., mais pas forcément sur un PEA. Donc, bon. Alors, il faut prendre en compte votre courtier, il faut prendre en compte le montant de votre achat, parce qu'en fait, un ordre, généralement, c'est un pourcentage. Donc,
bien
si
sûr,
vous investissez 1 000 euros ou 10 000 euros, le prix de l'ordre varie. Ça, bon, faut prendre en compte aussi la façon dont vous faites votre ordre. Si c'est par téléphone, ça sera souvent beaucoup plus cher que si c'est depuis votre appli ou en ligne. Donc, voilà, il y a tout un panel de choses à prendre en compte.
Et là-dessus, il est important de le préciser quand on veut faire du stock picking, c'est-à-dire acheter et vendre des valeurs en continue, mécaniquement, on augmente les frais sur...
Si on augmente le nombre d'ordres passés, on augmente aussi mécaniquement, effectivement, les frais de courtage qui sont liés à ces investissements, oui, bien sûr. Bien sûr.
De quoi parle-t-on quand on parle de taxes sur les transactions financières?
Les transactions financières, on en parle beaucoup en ce moment parce que l'NFP tient à les augmenter. Alors, elles sont de 0,3% depuis 2017 et il s'agit d'une taxe sur les achats d'actions de sociétés françaises dont la capitalisation boursière est supérieure aux milliards d'euros.
D'accord.
Alors, dans les faits, vous n'allez pas trop vous rendre compte que vous les payez parce que généralement, c'est votre courtier en bourse qui va les répercuter directement sur le...
Les frais.
Les frais, exactement.
D'accord. Et ça peut être amené à évoluer.
Ça peut être amené à évoluer, exactement. Le nouveau Front Populaire a précisé qu'il aimerait un durcissement de la taxe sur les transactions financières. Il a aussi émis l'hypothèse de supprimer la flat tax. Il y aurait plus seulement donc que le barème de l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux. Et comme la CSG pourrait aussi bouger avec le nouveau Front Populaire et devenir progressive, les prélèvements sociaux seraient aussi amenés à bouger, évidemment.
Ça veut dire que ça pourrait coûter plus cher d'investir en... Alors, j'en parle au conditionnel parce qu'on n'en sait rien, bien sûr.
On n'en sait rien. Il faut que le nouveau Front Populaire passe et qu'ensuite il applique son programme. Donc, c'est pas fait. Mais la progressivité, non, ça peut vouloir dire. On peut s'imaginer que les prélèvements sociaux seraient moins élevés pour les ménages les plus modestes et qu'ils seraient au contraire plus élevés pour les personnes les plus aisées.
Si je reviens sur le PEA, alors on a effectivement comparé PEA et compte-titres. Est-ce qu'il faut forcément choisir entre l'un ou l'autre ?
Alors non, il faut absolument avoir un PEA pour les avantages fiscaux, ça c'est sûr.
D'accord.
Et après, est-ce qu'un compte-titres c'est nécessaire ? Si on est un investisseur bon père de famille dans une optique buy and hold, pas forcément. En revanche, si on est un investisseur plus expérimenté, plus actif, qu'on tient à avoir un peu plus de latitude pour son stock picking de titres vifs, ou qu'on est très intéressé par certains marchés hors UE, là, effectivement, il est intéressant de passer au compte-titres. Ce sera également intéressant, éventuellement, pour avoir des produits dérivés dans une stratégie de hedging et couvrir son portefeuille avec des produits qu'on ne peut pas utiliser forcément sur un PEA.
Quand on veut, finalement, s'exposer à l'intégralité du marché, on passe par le compte-titres. C'est moins intéressant fiscalement, rappelons-le.
Mais le compte-titres... Tous les titres sont éligibles au compte-titres, vous êtes seulement contraint par l'offre de votre courtier et c'est tout.
L'assurance vie dans tout ça par rapport à un compte-titres ou un PEA, c'est un investissement via des fonds, on peut pas du tout faire la même stratégie.
Oui, alors on parle aussi souvent évidemment de l'assurance vie via les supports d'unités de compte, il y a le PER aussi hein. Alors évidemment là c'est pas pareil parce que le bloc
là c'est bloqué. Oui, bien sûr, oui.
Voilà. Alors ça dépend de son contrat. Dans les faits, les supports d'investissement d'unités de compte souvent il y a beaucoup d'OPCVM, il y a quelques ETF, il y a très peu de titres vifs.
D'accord.
Ceci dit, l'offre tend à s'élargir beaucoup ces dernières années. Notamment chez les acteurs en ligne qui proposent de plus en plus de supports en unité de compte. C'est aussi intéressant l'assurance vie parce qu'on n'est pas limité à la bourse et que vous allez pouvoir aussi vous positionner sur le marché immobilier autrement que via des foncières cotées. Vous allez avoir les SCI, les SCPI et les EPCI.
Bien sûr.
Et ça, évidemment, ce n'est pas possible depuis un compte-titres ou un PEA.
On peut même investir dans les entreprises directement via des fonds de private equity ou autres. Donc tout ça, effectivement, peut vivre ensemble. Donc, un investir en PEA, combien ça rapporte, ça dépend de la stratégie évidemment, mais en tout cas la taxation est avantageuse, si je comprends bien. Clémence Tanguy, merci beaucoup. Clémence Tanguy, je rappelle que vous êtes responsable éditoriale au sein du Café de la Bourse. Merci à vous également de nous avoir suivis. Smart Bourse donc tous les jours en direct sur Bismart, que vous pouvez également retrouver en replay sur bismart.fr. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux de Bismart, nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain en direct sur Bismart pour une émission qui sera présentée par Pauline Gratel. Et je vous dis à demain.